Il est derrière. Le son est bon et il est mis pour l'ordi, c'est bon. Impec. Alors bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, je suis membre de cette église et à mes temps perdus, je suis informaticien. Ouais. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai en plus. Je suis marié à Laetitia et nous avons 3 enfants. Alors, il ne faut pas que vous le répétiez. Mais, vas-y, fais passer Pierre-André, je ne sais pas pourquoi il passe pas. Ouais, en réalité, je suis en mission. Je suis un agent secret, ultra secret, tellement secret que je ne sais même plus pourquoi je suis en mission. Mais vous, Église de Bouxwiller, si vous l'acceptez, votre mission, c'est de suivre le grand mandat que Jésus vous a donné. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Bonne chance à vous. Bon, vous avez reconnu, hein, mission impossible. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement parler d'un thème que les chrétiens ne connaissent pas assez à mon goût, le grand mandat ou la grande mission que Jésus nous donne à vous et à moi. Alors franchement, Tom Cruise, il n'a rien inventé. Hein. Parce que là, on est dans mission possible, pas mission impossible. Même si des fois, en marchant avec le Seigneur, on se dit « Ouah, non mais là, Seigneur, c'est pas possible. » Et on se rend compte que « Si, si, c'est possible. » Alors, pour cela, il faut encore qu'on puisse connaître notre grande mission. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Allez, on va faire un petit sondage. D'après vous, qui a déjà entendu parler de cette grande mission? Alors, le A, je sais exactement de quoi on parle. Le B, j'ai déjà entendu, mais je ne me souviens plus vraiment de quoi on parle. Le C, je ne suis plus tout à fait sûr. Et le D, franchement, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Allez, on vote. Dites-moi, qui vote le A, vous, on sait exactement de quoi on parle. Waouh, cool. Bon, hey, j'y vais, je me casse. Finalement, ça ne sert à rien que je parle de cette grande mission. Qui vote le B? Qui vote le C? Qui vote le D? Je ne sais vraiment pas de tout de quoi on parle. Impeccable. Eh bien, franchement, je suis assez étonné parce que je suis tombé sur des chiffres. Hein, c'est toujours un peu difficile. Et je suis tombé sur un sondage qui a été fait en Amérique. Je n'ai pas trop peur hein, que c'est à peu près les mêmes tendances chez nous, mais dans notre église, apparemment, ce n'est pas tout à fait la tendance. On connaît cette grande mission. Alors, c'est un sondage qui est un peu vieux. Il est de 2017, mais en 2022, ils ont refait un sondage qui est à peu près le similaire. Et finalement, c'est toujours d'actualité. On a posé la même question à des chrétiens américains, du coup, hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la grande mission? Et voilà ce qui en ressort. 51% des chrétiens n'ont jamais entendu parler du grand mandat. Et si nous prenons ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs et ceux qui ne pensent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment l'expliquer, ben finalement nous avons 83% de chrétiens qui ne connaissent pas ce mandat, cette grande mission qu'ils ont à accomplir. De quoi je parle? C'est quoi ce grand mandat que Dieu nous donne, cette grande mission? Et je suis sûr que pour la plupart, vous connaissez ce verset biblique. Alors, dites-moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui connaissent, donc je pense qu'on va aller assez vite. Matthieu 28. Exactement. C'est mon texte de prédication ce matin. Matthieu 28. Ce mandat, cette mission que nous avons, nous le voyons dans les 3 évangiles. On le voit également dans Actes. Actes, c'est un livre dans la Bible qui nous parle des toutes premières églises qui naissent. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. C'est vraiment une mission que Jésus nous donne. Et ça, on le voit plusieurs fois dans les évangiles. Mais c'est quand même dans Matthieu hein, que nous avons le texte le plus fort que nous connaissons pour la plupart, Matthieu 28, effectivement, 18 à 20. Alors là, Matthieu 28, 18 à 20, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Après, c'est terminé. Après les trois versets, Matthieu s'arrête là-dessus. Alors, l'évangile de Matthieu nous parle de la naissance de Jésus, Jésus qui a grandi, qui est mort, qui est ressuscité et qui est sur le point de retourner auprès de Dieu. Et il nous laisse cette phrase. Alors, on lit ensemble. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà le grand mandat. Voilà votre grande mission. On pourrait faire des Tom Cruise à nous tous. Impeccable. Alors j'espère que je vais être assez clair dans ce que je vais dire. Ce n'est pas forcément évident ce que j'aimerais essayer de vous faire comprendre ce matin. Alors, sachez juste que j'ai deux schémas, images à vous montrer. Vous allez pouvoir mieux comprendre Matthieu 28 avec ces images-là. Et on va terminer par une troisième chose. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en pratique ? C'est tout un programme ce matin. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Quand nous lisons ce texte, on s'aperçoit que le seul verbe à l'intérieur qui est à l'impératif, c'est-à-dire que c'est un ordre, le seul verbe à l'intérieur qui est à l'impératif, ce n'est pas le verbe « aller ». Ce n'est pas le verbe « baptiser-les ». Ce n'est pas non plus « enseigner-leur ». C'est « faites des disciples ». Voilà l'ordre que nous avons. Faites des disciples. Que faisons-nous de ce commandement que Jésus nous donne ? Faisons-nous des disciples ? Est-ce que vous faites des disciples ? Dans Mission Impossible, ça commence par votre mission, si vous l'acceptez. Alors ici, ce n'est pas une question d'accepter ou pas. C'est un ordre que Jésus nous donne. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes en mission et si vous ne l'acceptez pas, ben c'est que vous ne marchez pas du coup avec Christ et on va le voir après. Et du coup, ben, vous n'êtes pas vraiment disciple. C'est compliqué alors d'être un disciple si on n'accepte pas les ordres comme ça de Jésus. Mais du coup, on pourrait se poser la question de pourquoi devons-nous faire des disciples ? C'est vrai ça ? Quelle question ? Pour ça, deux réponses. La première, parce que Jésus nous l'a montré. Il nous a donné des exemples à travers ses disciples qu'il a fait et d'autres disciples aussi qui l'ont suivi. Mais comme c'est également un ordre également à suivre, ben, ça vient directement de lui. Donc voilà. Et de deux, parce que vivre loin de Dieu, c'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver. Est-ce que nous sommes suffisamment conscients que chaque jour, des gens meurent loin de Dieu et c'est une catastrophe ? Dieu ne veut pas que tu meures loin de lui. Au contraire, il a tout fait pour que tu l'acceptes, au point de devenir un homme, Jésus. De vivre dans notre misère, d'y mourir, et il a tout fait par amour qu'il a pour toi, que tu puisses l'accepter. Il a tout fait, car il t'aime tellement fort. Imagine l'amour d'une personne pour toi qui t'aime tellement fort qu'il décide de prendre ta condamnation que tu devais avoir sur lui-même et qu'il meure pour que tu puisses vivre. Jésus, c'est ça. Mais je vous donne un exemple. Parce que généralement, les exemples, c'est toujours un peu plus parlant. En juillet 41, Un prisonnier du bloc 14 du camp Auschwitz vient de s'échapper. La règle est claire. Pour toute évasion, 10 prisonniers vont devoir mourir. L'officier Karl Fritz ordonne donc en représailles que 10 des 599 prisonniers du bloc soient condamnés à mourir de faim et de soif. Et parmi les 10, il y a Franz Sisek. Je ne vous donne pas son nom de famille parce qu'il est imprononçable. C'est un sergent de l'armée polonaise, père de famille. À l'annonce, Franz Sisek s'écrie « Ma pauvre femme, mes pauvres enfants, que vont-ils devenir ?» Là, un homme, Maximilien Kolb, propose alors de mourir à sa place. Fritsch, l'officier, le questionne et exige de lui une identité. Et ses paroles exactes ont été perdues, oubliées, mais selon une version couramment rapportée, il aurait dit « Je suis un prêtre catholique de Pologne et je voudrais prendre sa place car il a une femme et des enfants. » Les nazis consentent à la substitution. Les 10 prisonniers sont enfermés dans un bunker souterrain du camp, à peine éclairé par des ouvertures étroites, le bunker de la faim. Et bien que la faim et la soif poussent habituellement les condamnés à la folie, au hurlement et à s'entretuer, et bien le gardien du bunker témoignera quelques années après qu'en très peu de temps, le prêtre Maximilien réussit à faire régner le calme et la piété avec ses compagnons dans cette tragédie, au moyen de prières, d'hymnes et de psaumes pour les chrétiens et pour les juifs. Après 3 semaines, sans nourriture et sans eau, le père Kolb demeure en vie alors que tous ses compagnons sont morts. Il sera exécuté le 14 août 1941. Franz Sisek, qui a eu la vie sauve, est libéré du camp d'Auschwitz après avoir passé 5 ans, 5 mois et 9 jours. Et bien que son épouse Elena ait réussi à survivre à la guerre, ses enfants ont été tués. En 1972, le Time Magazine rapporte que plus de 150 000 personnes ont fait le pèlerinage à Auschwitz, en signe notamment d'hommage à Maximilien Kolb. L'un des premiers à s'exprimer est franciscain, qui déclare alors « Je veux exprimer ma gratitude pour le don de la vie ». Franciszek meurt le 13 mars 1995 à l'âge de 93 ans. Jésus est bien plus que Maximilien. Le don de la vie que Franciszek a eu n'est rien comparé à la vie éternelle que Jésus nous offre. Être séparé de Dieu, on ne peut pas se l'imaginer. Mais c'est la chose la plus horrible qui puisse nous arriver. La Bible nous dit, si on prend plusieurs passages, elle nous dit que Dieu tient le monde. Il empêche que l'homme n'aille trop loin. Je vous laisse imaginer toute l'horreur que l'homme est capable de faire actuellement. Imaginez si Dieu lâche la bride, combien l'homme peut aller encore plus loin dans sa cruauté. C'est inimaginable. Et c'est ça. La chose la plus horrible qui peut nous arriver, c'est être loin de Dieu. Jésus est mort pour que tu ne meures pas. Alors oui, notre corps va mourir, mais on ressuscitera et on vivra près de Dieu. Et ça, ce n'est pas une fable. Jésus nous l'a prouvé il y a 2000 ans en arrière en ressuscitant. Et si tu me dis que c'est n'importe quoi, cette histoire de résurrection, eh bien alors, prouve-le-moi. Et je te souhaite bon courage, parce que beaucoup ont essayé de prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Et je vous souhaite bon courage pour essayer de me prouver l'inverse. Alors si ce matin tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'en supplie, ne passe pas à côté de lui. Lui qui t'aime tellement fort, qu'il a donné sa vie pour toi. Choisis la vie et non la mort. Et si ce matin tu n'as pas encore fait ce pas avec Jésus pour vivre, alors viens nous voir, Laetitia, moi ou les responsables, à la fin du culte, pour que nous puissions prier pour toi, mais accepte cette vie. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de faire des disciples, pour annoncer cette merveilleuse nouvelle, cette bonne nouvelle, que Jésus nous sauve. Rien et personne d'autre ne peut nous sauver, même pas nos actes. Nous ne pouvons rien faire, juste accepter Jésus par grâce et devenir son disciple. Comment faisons-nous d'ailleurs des disciples ? Alors on va reprendre un peu notre texte, et c'est là que j'ai mon premier schéma qui vient. Si nous regardons notre texte, nous pourrons dire que Jésus donne le contenu de la mission. Faites des disciples. Il nous donne par la suite également le mode d'emploi. Allez baptiser et enseignez-leur à obéir. Et pour qui ? Toutes les nations. Si nous comprenons correctement le baptême comme le symbole qu'on demande le pardon à Dieu de nos fautes, qu'on accepte Jésus pour rentrer dans la communauté des croyants, alors nous pourrons dire que votre mission, ma mission, consiste finalement à un double mouvement. Allez, c'est là que j'arrive avec mon schéma. Un premier mouvement de l'Église en direction du monde pour répandre la bonne nouvelle. Et ça, c'est le verbe « aller ». C'est ce que nous appelons de l'évangélisation. Et un second mouvement, le monde vers l'Église, au travers duquel ceux qui répondent à l'appel de Jésus sont intégrés à l'Église et formés à lui obéir. Et ça, c'est l'enseignement à obéir, enseignez-leur à obéir, que nous appelons actuellement chez nous, la formation de disciples. Ces deux mouvements s'entretiennent mutuellement, de telle sorte qu'en évangélisant, nous préparons la formation des disciples. Et en formant les disciples, nous leur enseignons notamment à poursuivre cette mission que Jésus nous donne, à évangéliser. Mettre en place une culture d'évangélisation et mettre en place une culture de discipula, ben c'est finalement ces deux facettes de la même pièce. Elles se nourrissent mutuellement et on ne peut pas les séparer. Mais nous avons, nous, en Occident, un petit problème. Et c'est là que j'ai ma deuxième image qui va arriver. Car si nous regardons notre texte, nous voyons dans notre marche avec Jésus, il y a trois éléments qui permettent de voir la maturité d'un disciple et la bonne croissance d'un disciple. Et là, du coup, je parle à chacun d'entre nous en tant que disciple. La première élément, c'est la connaissance. Nous avons besoin de connaître Dieu, Jésus. C'est notre théologie. Il ne faut pas qu'elle soit tordue, parce que sinon, elle se transforme vite en secte. Deuxième élément, c'est l'obéissance. Nous avons besoin d'obéir. Apprendre à dire à Jésus, oui, tu es plus important que ma femme, que mes enfants, que mon argent, que mon travail. Et le troisième élément, c'est le partage. C'est dans le verbe « aller », partager, mettre en pratique ce que nous apprenons. Le souci, c'est que chez nous, en Occident, nous sommes très bons sur la connaissance, mais alors sur le côté de l'obéissance et de la mise en pratique, ça fait un peu plus mal. Alors c'est assez marrant parce que ça, c'est assez culturel. Si on va chez nos frères et sœurs en Afrique, eux, ils ont un peu le schéma inverse. Ils partent très vite. Mais point de vue connaissance, des fois, c'est plus compliqué. Et du coup, il y a des fois de fausses doctrines qui arrivent aussi vite. Mais je vais vous donner un autre exemple pour nous, pour notre contexte occidental. Le mariage. Aïe, ça fait mal. On dit souvent qu'il est important qu'un chrétien se marie avec une chrétienne. Mais pourquoi ? C'est bizarre. Ça fait presque sectaire finalement de dire « Non, moi je veux me marier qu'avec un chrétien ou une chrétienne. » Non, c'est juste logique, parce qu'on veut suivre ce mandat. Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes censés être un disciple de Jésus, du coup, nous avons un ordre que Jésus nous donne, allez, faites des disciples et enseignez-leur à obéir. Il y a plusieurs façons de faire, hein, mais comment nous le... Ouais, il y a plusieurs façons de faire, mais là, par rapport au mariage, dans l'exemple que je veux vous donner, c'est par exemple, Laetitia, ma femme et moi-même, nous avons à cœur ce commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette mission, nous avons à cœur de voir les gens se tourner vers Dieu et quelle joie de les voir grandir en Jésus. Et c'est quand moi je ne suis pas bien au fond du trou que Laetitia me prend la main et me dit « Viens, on va prier ensemble. On va mettre des choses en place pour que tu reprennes et que tu puisses prendre de nouveau ton rôle et accomplir cette mission, que tu reprennes ta responsabilité de chrétien. » Et quand c'est elle qui va mal, eh bien c'est moi qui lui tends la main. Mais ça, on ne peut pas la voir dans un couple qui ne partage pas la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais la connaissance, vous l'avez. Vous savez que ce n'est pas tout à fait génial, par exemple, d'être avec une personne qui ne partage pas notre foi. Mais le deuxième élément, l'obéissance, eh bien ça c'est plus compliqué. C'est dire « Oui Seigneur, ok, je veux te faire confiance, même dans le mariage, et je dirais même plus, surtout dans le mariage. C'est quand même la personne qui va vous suivre le plus. » Je dis ça parce que j'ai entendu trop de personnes les derniers temps comprendre, mais pas réussir à mettre en pratique et ne pas obéir. Et je suis tellement triste, car vous passez à côté de cette grande mission. Et si vous avez compris le premier schéma, c'est qu'en ne pas obéissant, eh bien vous allez forcément gripper la roue et vous allez pas pouvoir grandir, vous stagner. Au pire, vous réchauffez les bancs de l'église, mais la plupart du temps, l'autre personne vous attire vers le bas et on n'arrive plus à suivre Jésus. Je le dis car nous avons quelques célibataires, quelques jeunes et moins jeunes, et je vous encourage tellement à rester accroché à Dieu, à obéir. Je sais que c'est difficile. Je sais que cela peut être dur et que les tentations peuvent être grandes, mais restez ferme. Accrochez-vous à Dieu et obéissez. Mais ceci n'est pas que pour le mariage, c'est juste un exemple que j'ai pris là. Nous devons apprendre à obéir dans tout ce que Jésus nous demande. Oui Seigneur, je te laisse ma carrière. Je te laisse mon argent, ma réputation ou ma famille. Et ce n'est pas évident, hein ? C'est pour cela qu'il est important que nous nous aidions ensemble à obéir, à partager et à grandir. Et comment faisons-nous ça ? Comment est-ce qu'on peut être un disciple en mouvement ? Il n'y a pas de secret. Cela s'appelle, et ça c'est ma troisième chose, cela s'appelle un groupe de croissance, un groupe de disciples ou un groupe de découverte. On avait dans l'église à un moment donné des trios qui s'étaient formés et ça s'est un peu arrêté tout doucement. Alors je sais qu'il y a quelques groupes encore qui restent et je vous encourage à tenir, mais je vous encourage tous à prendre comme ça 2-3 personnes dans votre entourage de même sexe et vous réunir une fois par semaine pour prier ensemble, lire la Bible, vous motiver à obéir à Jésus. Pour cela, nous avons plusieurs parcours qui existent, mais ça nous permet de nous challenger ensemble. Ok, cette semaine, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as pu parler de Christ à travers la bouche, mais aussi à travers ton corps, à travers tes émotions? Est-ce que tu as pu partager Christ? Et qu'est-ce que tu vis actuellement? Est-ce que tu as un péché qui est lourd? Est-ce que tu veux qu'on en parle, qu'on prie pour toi et avoir de la redevabilité? C'est tellement important et je vous encourage tellement à commencer un groupe comme ça. Que vous puissiez réfléchir comme ça, deux, trois personnes, hein, mettre la Bible au centre, que nous puissions nous poser des questions, notre engagement au Seigneur. Et la semaine suivante, on discute de nouveau. Ok, où est-ce qu'on en est? Faut-il changer des choses dans ma manière de faire ou de voir? Et comment on fait pour grandir toujours encore plus avec Christ et du coup partager Christ? Être meilleur avec les autres, meilleur avec Christ, meilleur dans mon caractère, meilleur pour essayer d'arrêter les péchés qui me collent encore à la peau. Ouais, tout simplement être un disciple. Et on pourrait penser que des fois ça pourrait être légaliste, hein, ce côté, voilà, il faut faire comme ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que le sacrifice de Jésus, il est tellement immense sur la croix, il est tellement fou pour moi que je ne mérite pas que mon Créateur vienne en personne mourir pour ma faute. Parce que, en plus, je suis rebelle. Mais il l'a fait parce qu'il m'aime. Il l'a fait par amour. Et je peux que dire, waouh, merci. Et je n'ai pas de mots. Et je voudrais tellement, Seigneur, te suivre. Je ne pourrai jamais te dire assez merci. Mais j'ai envie de m'améliorer, de devenir un disciple de toi, Jésus. De te suivre quoi qu'il m'en coûte. Et juste travailler sur mes péchés, sur mes manquements, sur mon caractère, pour que je puisse pleinement te refléter. Allez, faites de tous les peuples des disciples. Tous les peuples, cela veut aussi dire toute la sphère sociale ici également en France. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Ça commence devant chez vous. Nous avons besoin de disciples de Jésus dans la politique. Alors, je vous rappelle qu'à partir du 15 et du 22 mars 2026, vous allez élire votre conseil municipal et votre maire. Allez dans les conseils municipaux. Nous avons besoin de chrétiens parmi la politique. On voit trop de politiques en ce moment faire n'importe quoi et complètement être aveuglés. Ils ont besoin d'une lumière qui les éclaire. Allez dans un conseil municipal. Je suis aussi heureux parce que France Évangélisation, par exemple, a mis des pasteurs dans le monde du mannequinat. C'est-à-dire que ce sont des pasteurs mannequins qui sont pasteurs et qui, dans la vie, ben, ils font mannequins. On a besoin de personnes qui expliquent dans ce monde-là comment ça marche, qu'on n'a pas besoin, parce qu'ils ont un monde tellement fermé sur le corps, on a besoin de personnes comme ça, d'être des lumières. Allez, je vous donne un dernier exemple. Vous les connaissez, ceux-là ? On a bientôt le Hellfest qui commence, ce grand concert de métal en France. Et je suis content de voir des disciples ici de Jésus, des métalleux, qui irrigent la Metal Chapel, c'est génial, pour briller au milieu de ce peuple-là. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Elle est trop dingue cette musique pour moi, j'écoute pas ça, c'est pas mes codes à moi. Mais on a besoin de gens qui connaissent ces codes-là et qui vont briller parmi les gens qui ne connaissent pas Jésus. Briller partout, dans toutes les sphères de la société, dans toutes les nations. Nos églises doivent passer d'un mode, du mode pastoral à un mode apostolique. Il faut qu'on vous envoie dans le monde. Et c'est ça que le Matthieu 28 nous donne. Aller dans le monde. La semaine des bougies que nous avions eue, c'est ça. C'est essayer de faire venir les gens. Le parcours alpha qu'on a fait, c'est ça également. Les soirées jeux Halloween qu'on a fait, c'est également ça, faire venir les gens et où aller vers eux. Allez, je récapitule pour ceux qui sont endormis. Matthieu 28, 18, 20, les trois derniers versets de l'évangile de Matthieu nous donnent le grand mandat, notre grande mission. Une mission holistique, c'est-à-dire une mission globale. Il faut qu'on la prenne en compte, cette mission. On ne peut pas dire on a juste un évangéliste de ce côté-là, un pasteur de ce côté-là. Non, c'est comme ce que Monique, je ne sais plus où elle est Monique, elle s'est perdue Monique. C'est comme ce que Monique nous disait effectivement, c'est global. Il faut qu'on réfléchisse sur la manière globale. C'est un grand mandat, ça ne se limite pas que à de l'évangélisation. Il faut faire l'annonce de l'évangile, le baptême, l'enseignement, la multiplication. Et la multiplication, ça veut dire former des disciples qui forment d'autres disciples. C'est également une mission collective. Jésus s'adresse à tout le monde. Toute l'Église est appelée à participer. Mais l'Église est appelée à s'organiser, à pouvoir aller avec des œuvres missionnaires, mais aussi avec d'autres églises qui n'ont pas les mêmes vues peut-être, mais à travailler ensemble. C'est une mission également ancrée dans l'autorité de Jésus. Et ça, ça fait défaut chez nous. La mission, notre mission, ce n'est pas une option, mais c'est un ordre donné par Jésus. Obéissons. Hier, au groupe de jeunes, on a essayé de voir comment on obéit. Ouh, c'était dur. Et c'est possible parce que Jésus a toute autorité. Et un dernier point que je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais une mission jusqu'à la fin des temps. La mission, elle est permanente et elle ne prendra fin qu'au retour de Christ. C'est-à-dire que chaque génération, vous tous, vous êtes responsable de transmettre cette bonne nouvelle. Et pour nous aider dans cette mission, il est trop important qu'on puisse nous-mêmes aller dans un groupe de découverte, de croissance, de disciples, de trio, appelez-le comme vous voulez, mais qu'on puisse s'encourager à grandir et encourager les personnes qui découvrent le Seigneur. Vous les emmenez aussi dans ces groupes à grandir et à apprendre à obéir. Voilà. Soyez des disciples, des vrais disciples en marche. Soyez des pêcheurs d'hommes. Amen. Seigneur Jésus, permets-nous simplement de venir tel qu'on est, faible et sans grande prétention. On n'y arrive pas toujours. Des fois, on a envie de parler de toi et on n'ose pas. Des fois, on parle de toi et c'est maladroit. Mais en même temps, permets-nous d'obéir à ça. Permets-nous d'obéir à ce que tu nous dis, de pouvoir avancer avec toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici, que tu lui donnes vraiment cette envie de grandir toujours encore plus avec toi et de t'obéir. Amen.